Bienvenue à la Daily Audio Bible. C'est merveilleux pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui, croyez-moi, et je suis heureux de faire encore un pas en avant dans ces histoires sensationnelles que nous offrent les Écritures, la parole de Dieu. Ayant terminé le livre d'Esther hier, alors aujourd'hui nous avons bien entendu un nouveau livre à entamer. Il s'agit du livre de Job. Ce livre est souvent considéré comme un livre difficile, mais en réalité, il est l'une des plus belles œuvres de littérature de la Bible et certainement de toute l'histoire. Job traite de la question du mal et de la souffrance humaine, de nos lamentations face à la question que nous nous posons tous à un moment donné ou à un autre de notre vie, « Pourquoi moi ?» puis de la lutte et du tâtonnement pour connaître la réponse à cette question. Vous savez, les origines du livre de Job sont controversées, mais tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit du plus vieux livre de la Bible, précédant même les livres des patriarches. Selon la tradition juive, Moïse en serait l'auteur, mais nul ne sait s'il couchait pour la première fois sur papier les traditions orales qui se transmettaient depuis des millénaires comme il l'avait fait avec le récit sur la création et tout ce qui s'en est suivi jusqu'à son règne, ou s'il rédigeait une sorte de traité théologique traitant de la question de la souffrance avec la douleur comme parabole. Quoi qu'il en soit, cela a été bien fait et le livre recueille quelques-unes des plus belles pages de la littérature mondiale pour nous aider à lutter contre ces questions. Nous finissons par nous rendre compte que dans notre recherche de réponse à la question de la souffrance à laquelle nous avons associé la gloire de Dieu, nous nous retrouvons sans voix face à la gloire infinie de Dieu, face à sa puissance et à sa force inimaginable, face, en fait, à son indescriptible beauté. Et nous réalisons combien nous sommes insignifiants comparés à lui. Ce n'est que Dieu et lui seul qui nous confère notre valeur, et sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais souvent, quand nous sommes confrontés à la souffrance dans notre vie, nous nous demandons pourquoi. Souvent, sans avoir de réponse. Nous pouvons soit passer notre vie entière à chercher une réponse à cette question, soit nous en tenir à Dieu et accepter que l'on ne puisse pas toujours tout savoir. Ses desseins sont beaucoup plus élevés que les nôtres. Et Dieu nous a aimés, nous a chéris et a pris soin de nous. Alors soyons rassurés par le fait d'avoir une relation personnelle et conversationnelle avec notre Créateur. Alors pour nous lire ce livre passionnant aujourd'hui de la Bible Louis II, eh bien c'est Jean-François qui a cette heureuse tâche et je lui laisse la parole.
Livre de Job, chapitre 1 à 3. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin, et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand le jour de festin était passé, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait « Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur ?» C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu ? » Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr, il te maudit en face. L'Éternel dit à Seth : Voici. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit « Les bœufs labouraient et les ânesses passaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés de dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. » Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Des Chaldéens formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu du côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je me suis échappé moi seul, pourtant n'apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan : D'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel : De parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan : As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel : Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan : Voici, je te le livre. Seulement, épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la terre. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs !» Et Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien ? Et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Choa et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler. Ayant de loin porté les regards sur lui, ils ne le reconnurent pas. Et ils élevèrent la voix et pleurèrent. Ils déchirèrent leurs manteaux, ils jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Et ils se tinrent assis là, par terre, auprès de lui, 7 jours et 7 nuits, sans dire une parole, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Il prit la parole et dit : Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit : Un enfant mâle est conçu. ce jour qu'il se change en ténèbres, que Dieu n'en ait point souci dans le ciel et que la lumière ne rayonne plus sur lui, que l'obscurité et l'ombre de la mort s'en emparent, que des nuées établissent leur demeure au-dessus de lui et que de noirs phénomènes l'épouvantent. Cette nuit, que les ténèbres en fassent leur proie, qu'elles disparaissent de l'année, qu'elles ne soient plus comptées parmi les mois, que cette nuit devienne stérile, que l'allégresse en soit bannie, qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent en vain la lumière et qu'elles ne voient point les paupières de l'aurore. Car elle n'a pas fermé le sein qui me conçut, ni dérobé la souffrance à mes regards. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or et qui remplirent d'argent leur demeure. Où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. Les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à ceux qui souffrent et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui seraient transportés de joie et saisis d'allégresse s'ils trouvaient le tombeau? À l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Un Corinthiens 14, versets 1 à 17. Recherchez l'amour. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier l'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare, celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église ou que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, et tu rends grâce par l'Esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu lui dis? Tu rends en vérité d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Psaume 37, versets 12 à 29. Le méchant forme des projets contre le juste. Il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leurs arcs se brisent. Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés. Mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent et les ennemis de l'Éternel sont comme les beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Le méchant emprunte, il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que bénit l'Éternel possèdent le pays et ceux qu'il maudit sont retranchés. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. Car l'Éternel aime la justice, et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Proverbe 21, versets 25 et 26. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie.
Et merci beaucoup Jean-François pour ta lecture. Prions ensemble. Notre Dieu qui est au ciel, nous te demandons d'envoyer ton Esprit Saint comme une lumière de vérité et de clarté sur nous. Pendant que nous lisons le livre de Job, Seigneur, éclaire ce qui est le plus important pour nous, ce qui est important que nous puissions apprendre de ce livre. S'il te plaît, aide-nous à comprendre ta souveraineté et les objectifs qui motivent le fait que tu permettes la souffrance. Aussi, en précisant ta volonté pour notre vie, accorde-nous la miséricorde et la force. Amen. Je vous laisse et je vous dis à demain pour la suite de notre podcast.